parce que cette commission est une commission d'enquête et que donc tout faux témoignage et toute subornation de témoins serait passible des peines prévues aux articles.
Oui, savez, certainement.
Hein, 434-13 et 434-14 et 434-15 du Code pénal. Donc je vous demanderai de jurer de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
Oui, j'accepte, merci.
Très bien. Vous considérez donc que cette formalité est remplie. Je vous laisse donc la parole pour un propos liminaire avant les questions, d'abord à M. le rapporteur et puis ensuite à l'ensemble des membres de la commission.
Merci. Alors, Madame la Présidente, Messieurs, Madame les commissaires, pour commencer, j'ai quelques remarques que je voulais dire. Je dirais d'abord que tout État moderne a une fonction de régulation indispensable, non seulement pour l'administration strictement publique, mais aussi pour faire démarrer et pour stabiliser le système largement privé de production industrielle, des relations financières et pour assurer la qualité des produits et des services disponibles sur les marchés. Effectivement, la différence entre les pays développés et les pays dits en voie de développement, ce n'est ni la qualité de l'enseignement, ni la technologie dont ils peuvent disposer, mais la capacité de ce système de régulation interne. Bien sûr, il existe aux États-Unis un service civil, c'est-à-dire une haute fonction publique avec des cadres en permanence, dont la participation dans les affaires politiques est rigoureusement défendue. Le spoil system, qui a été introduit dans la présidence de Andrew Jackson en 1829, a été remplacé largement dans les dernières décennies du 18e siècle, du 19e siècle, excusez-moi, à la suite de l'assassinat du président Garfield par un chercheur désapprouvé. Alors, ce système s'est trouvé un peu dangereux pour les présidents. L'expansion de la fonction publique entre les années 30 et 70 du XXe siècle a créé effectivement l'État moderne au niveau fédéral. Il faut pourtant admettre que le spoil system restait intact au niveau de certains États et des grandes villes, telles que Chicago par exemple, jusqu'à beaucoup plus récemment. Le recrutement des branches de la haute fonction publique américaine passe pour la plupart par les universités, les écoles de droit, y compris les écoles de l'administration des affaires publiques dont je suis professeur à l'Université du Texas. Une bonne fraction de mes étudiants passe de notre programme directement au service fédéral, soit par exemple au bureau de budget, au service de recherche du Congrès, au service étranger, etc., selon leurs compétences. Néanmoins, il existe aussi un certain niveau de position importante. Environ 7000 dans le gouvernement fédéral actuellement, qui sont à la disposition du président. Et si ce sont des officiers des États-Unis, c'est avec l'accord nécessaire du Sénat. En 2012, il y avait entre 1200 et 1400 dans la catégorie des autres officiers des États-Unis dont le Sénat avait compétence sur leur mission au service. La capacité de nommer ce nombre important de hauts fonctionnaires est un pouvoir principal de la Maison-Blanche, utilisé par tous les présidents, mais limité dans certains cas par le Sénat. pour un exemple important, voire le refus du Sénat de considérer la nomination en 2017 de Merrick Garland à la Cour suprême, mais il y en a beaucoup d'autres. Néanmoins, ce système permet un degré important de contrôle politique de la bureaucratie fédérale, et ce contrôle a tendance à durer car un certain nombre de ces désignés politiques restent en permanence après la fin de l'administration qui les a mis en place. En conséquence de ce système mixte, de professionnels et de la politique, on peut discerner certaines tendances significatives qui caractérisent l'économie politique américaine actuelle. D'abord, ce qu'on appelle le « revolving door », la circulation des élites par laquelle les désignés politiques arrivent du secteur privé et y retournent après une certaine période de service public. Cela entame forcément une identité d'intérêt entre la direction de certains éléments de la haute fonction publique et les intérêts privés d'où elle vient et d'où elle va se retourner. On peut multiplier les exemples, effectivement, de conflits d'intérêts entre les professionnels et leurs maîtres, par exemple dans les services de régulation financière, ce qui est devenu assez bien connu dans le monde au moment de la grande crise financière, actuellement dans les services de protection environnementale qui sont dirigés par un chef d'entreprise ou un officier de l'industrie des pétrolières, le département de justice et même de temps en temps le département d'État. Je ne vois pas dans le système américain une grande différence de résultats par comparaison avec les autres pays, mais la circulation des hauts officiers est quand même un aspect assez singulier du système gouvernemental des États-Unis. Dans le staff du Congrès où je travaillais il y a quelques décennies en tant que directeur exécutif du comité bicaméral sur les affaires économiques, il y avait autrefois une tendance pour le staff professionnel de faire une migration permanente à un certain moment dans leur carrière vers les lobbies. Je ne sais pas si la situation actuelle, mais j'ai l'impression que depuis un certain nombre d'années, les lobbies s'occupent directement de la préparation des projets législatifs et le rôle du staff professionnel est beaucoup diminué par rapport à ce qu'il était aux années 70 et 80 du 20e siècle. Il y a deuxièmement une certaine tendance qu'on dit de renouveau, reinvention du gouvernement, c'est-à-dire d'avancer les soi-dits principes du marché dans les affaires gouvernementales. Je ne sais pas si c'est uniquement américain, ça, mais ça a l'effet de mélanger les rôles de ceux qui font la régulation et ceux qui la subissent. D'avoir dans certains cas, et c'est très clair dans la situation de la régulation financière, une tendance de diminuer la présence de l'État sur les décisions des banquiers. À part ça, il y a un phénomène que j'ai appelé dans un livre publié il y a 10 ans qui s'appelle « L'État prédateur », dit d'environ 40 ans, qui consiste dans la privatisation partielle de certains éléments, surtout lucratifs, soit de l'État-providence, soit de l'administration de justice, soit des affaires militaires. On peut parler du régime de l'achat de médicaments qui a été introduit sous le programme d'assurance santé pour les âgés, Medicare, au moment de l'administration du deuxième président Bush, ou des prisons privées, une innovation de quelques décennies, ou des services mercenaires tels que l'entreprise Blackwater en Irak aux années 2000. Il n'y a rien à faire là-dedans avec la privatisation stricto sensu. Il s'agit de la modification de la fonction publique ou dans certains cas sous le président Bush en particulier, de l'expansion de la fonction publique d'une telle manière d'achever d'acheter le soutien de certains acteurs dans le secteur privé, c'est-à-dire le soutien politique, aux dépenses de l'efficacité dans l'administration. L'introduction en 2010 de Obamacare, cette expansion des assurances santé pour la population en général, peut nous offrir un exemple excellent du genre. Est-ce que c'est de la corruption? Bien sûr, on peut le dire. Mais la situation est curieuse. La haute fonction publique opère sous des règles extrêmement strictes. Il leur est interdit, par exemple, d'accepter même un déjeuner offert dans un bistrot par un ancien camarade tel que moi-même, par exemple. Mais il est permis quand même d'introduire l'idée de « too big to fail » pour les grandes banques qui ont la capacité de coûter des milliers de milliards aux contribuables. C'est ce qu'on appelle en anglais « straining at gnats while swallowing camels ». Et finalement, chez notre président actuel, M. Trump, qu'est-ce que je peux vous dire? Un gouvernement d'oligarques et de généraux. En général, je préfère les généraux, ce sont d'autres fonctionnaires publics et professionnels. Et ils savent ce que c'est que la guerre. Mais en général, je vous conseille, méfiez-vous, et surtout, n'y cherchez pas de modèle. Merci bien, je vous remercie, j'attends vos questions.
Yeah.